longtemps, et c'est ce qu'on voit toujours maintenant, bah, les gays et lesbiennes, en fait, ils se mariaient avec quelqu'un d'hétéro et ils vivaient leur vie sexuelle propre avec quelqu'un d'autre en dehors du mariage. Donc même maintenant, on le voit encore, si on interroge des gays ou des femmes lesbiennes, bah, ils disent bah, « c'est pas grave, nous on veut faire comme tout le monde, fonder une famille ». Donc du coup, même si on peut être militant aussi, on se dit bah, « on va vivre notre vie avant d'en revendiquer, de faire quelque chose qui est politisé ». Donc c'est ça la troisième voie. Mais en fait, c'est ce qui se passe au Japon, c'est-à-dire qu'une petite poignée de militants s'est saisie de la voie juridique, alors qu'ils auraient pu faire d'autres choses, je sais pas, des actions dans le symbolique, des protestations, ils auraient pu s'enchaîner au Parlement. Enfin, il y a cette volonté d'avancer doucement, enfin, en gardant pour soi la sexualité comme quelque chose d'intime. Donc effectivement, on est sur cette troisième voie et ça explique peut-être le rythme et la voie qui est choisie, la judiciarisation.
Bonjour à tous, je m'appelle Victor et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Cette semaine, je vous emmène en Asie et plus précisément au Japon. Et si je vous en parle, c'est parce que le Japon est le dernier pays du G7 à ne toujours pas avoir légalisé l'union civile ou le mariage pour tous. Alors même que l'opinion publique y est très favorable. Mais les choses sont peut-être en train de bouger. Deux tribunaux de l'archipel viennent en effet de juger que l'interdiction du mariage aux couples homosexuels est contraire à la constitution japonaise, ce qui pourrait bien pousser le Parlement à se saisir de la question. Fin 2023, c'est la Cour suprême japonaise qui vole au secours des droits LGBT. La stérilisation forcée à laquelle sont soumises les personnes trans qui veulent changer de genre à l'état civil est jugée inconstitutionnelle. Alors sommes-nous à un moment de bascule pour la communauté queer japonaise? On en parle avec Aline Henninger, elle est maîtresse de conférences en langues et civilisations japonaises à l'université d'Orléans et elle travaille sur les questions de socialisation de genre et de sexualité dans le Japon contemporain. Bonjour Aline Henninger.
Bonjour.
Alors, je le disais en introduction, le 14 mars dernier, les tribunaux de Tokyo et Sapporo ont reconnu que l'interdiction du mariage des personnes LGBT posait un problème d'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement pour les couples de même genre japonais aujourd'hui ?
Ça veut dire qu'une fois de plus, le camp juridique passe la balle dans le camp politique. Il y a eu 5 procédures de jugement par des tribunaux de district qui ont été portés le 14 février, donc c'est symbolique, hein, 14 février, jour de la Saint-Valentin, hautement commercial et hétérosexuel, mais bon, ce jour de la Saint-Valentin, on a des couples de même sexe qui se sont portés partie civile pour dénoncer l'inégalité qu'ils subissent du fait qu'ils ne puissent pas se marier. Et effectivement, il y a eu un tribunal de district à Tokyo, à Nagoya, à Fukuoka, à Sapporo et à Osaka. Donc, si vous voulez, les jugements ont été rendus entre l'année 2021-2023 et puis maintenant 2024 pour de nouveau en appel. Et effectivement, la première décision en 2021 disait effectivement que c'était inconstitutionnel puisque l'article 14 énonce le fait que tous les Japonais sont égaux en droit. Et puis, il y avait aussi un jugement qui a été repris par une autre cour, donc celui de Osaka, qui avait dit bah, « finalement, ce n'est pas au juridique de se prononcer, c'est vraiment au politique ». Et pour eux, il y avait un soupçon de non-égalité. Donc c'est vraiment le terme soupçon qui avait été porté par les juges. Donc voilà, c'est très contrasté, parce qu'on n'a pas le même avis selon le tribunal de district. Et entre 2021 et aujourd'hui, le Premier ministre donc actuel, Kishida Fumio, avait dit « oui, on pourrait peut-être examiner la question ». Et donc, effectivement, bah, on est à ce point de bascule. Est-ce que le Parlement se saisira de ces jugements ou non ? En 2019, il y a eu un projet de loi pour légaliser l'union civile des couples de même sexe, sauf que le projet n'a pas du tout été finalisé par la Diet, donc par le Parlement. Et c'est tout à fait normal, puisque on va dire que la couleur politique qui soutient ce changement n'est pas majoritaire en ce moment à la Diet. Et en ce moment, ça dure depuis 2012, donc c'est long, voilà, si je résume.
Est-ce qu'il y a déjà une forme de reconnaissance juridique quelconque pour les couples de même sexe à un échelon ou à un autre ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe quelque part au Japon ?
Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, il n'y a pas de mariage gay pour le moment. Il n'y a pas non plus de PACS comme ce qu'on peut avoir en France ou en Allemagne, parce qu'il n'y a pas de PACS au Japon, donc on est un peu entre soit le concubinage, soit le mariage. Bon, après, il y a aussi l'exception de ce qu'on appelle mariage de fête, mais ce n'est pas non plus reconnu par les juges pour les couples de même sexe. On a depuis 2015 ce qu'on a appelé les partenariats, alors je traduis partnership shomeisho, donc littéralement attestation de partenariat. Donc c'est la mairie de Setagaya et de Shibuya qui ont lancé le mouvement, non pas par militantisme LGBT, mais par affinité, on va dire, amicale. C'est Hasebe Ken qui était dans le conseil, qui s'est dit, mais c'est bizarre, mes amis homosexuels ou lesbiennes ne peuvent pas se marier, pourquoi on n'y porterait pas quelque chose de reconnaissance, au moins au niveau municipal? Alors ça n'a aucune portée juridique, c'est ça qu'il faut bien comprendre, ça se vote à l'échelle d'une commune, d'une ville, c'est reconnu pour un département, on fonctionne par département au Japon, mais ça a été un élan vraiment symbolique. Il y a par exemple un couple de femmes lesbiennes connues, parce qu'elles sont actrices, qui tout de suite a dit bah, nous on va se marier dans, alors je crois que c'était l'arrondissement de Setagaya. Il y a eu beaucoup de pubs et les gens ne comprenaient pas parce que ce n'était pas un pax, ce n'était pas un mariage, c'était un truc en dehors. Et donc la reconnaissance que ça peut apporter sont vraiment des choses ultra concrète et ultra matérielle, c'est-à-dire bah, si je suis au Japon et que je suis lesbienne et que je suis en couple, en fait, bon, un, je ne peux pas me marier, mais deux, je ne peux pas, par exemple, acheter une maison en ayant ou louer un appartement en disant qu'on est ensemble. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ça protégeait notamment la location, la vente. Vous avez souvent des offres de réduction avec les offres téléphoniques, forfait famille. Donc voilà, pour tous ceux qui sont allés au Japon, c'est super important parce que c'est vraiment beaucoup plus, moins onéreux. Donc il y a les forfaits famille et surtout, imaginons votre conjoint se retrouve malade. Si vous n'êtes pas reconnu comme partenaire, vous n'avez pas le droit en fait de venir le voir ou de prétendre que c'est vous qui l'emmenez à l'hôpital. Donc ça, par contre, c'était inclus en tout cas dans ce que ça apportait. Donc on peut dire que c'est aussi un tournant, mais qu'il est en cours. Par contre, c'est vraiment une reconnaissance plus symbolique que concrète, vraiment.
Et justement, est-ce qu'une reconnaissance concrète, avec les décisions qui sont prises, même si bon, la balle est renvoyée dans le camp du Parlement qui n'a pas l'air d'être très, très disposé à s'en saisir, mais pourquoi est-ce que ça bloque à ce point-là? C'est uniquement une question de couleur politique ou d'absence de volonté? Enfin, qu'est-ce qui bloque réellement?
Alors vous avez tout à fait raison, et ça c'est nouveau, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas dit ça il y a à peine 10-15 ans. Donc effectivement, on a des taux d'approbation de la population qui sont entre 60 à 75%. Donc c'est énorme, on pourrait se dire, bah tiens, en fait la population japonaise est parfaitement disposée à admettre que bah, le fait qu'il y ait une personne sur cinq qui soit non hétéro, c'est parfaitement normal. Et puis quand on fouille un petit peu les enquêtes... On voit effectivement qu'il y a un profil qui revient. Donc, ce sont plutôt les hommes âgés qui fréquentent assidûment certains cercles politiques et religieux qui, eux, vont clairement dire « Ah non, on est contre ». Donc, je catégorise, hein, bien sûr, mais on peut voir à la fois un changement de génération, peut-être, qui se profile. Et puis après, une très forte coloration politique sur le genre de rejet. Et puis, à la télé... Il y a beaucoup plus de personnes LGBT qu'il n'y en avait dans les années 90, où il y en avait peut-être une ou deux qui étaient gays ou trans, on ne savait pas trop. Je pense à l'activiste Matsuko Delax. Alors c'est très ambivalent, il est omniprésent dans les médias. En même temps, personne ne sait s'il est gay, travesti, trans. Et il est militant, mais il n'en fait pas état sur les plateaux télé. Donc vous avez cette espèce de visibilité qui en même temps est un peu trompeuse pour les Japonais qui sont plutôt hétéros et qui, comment dire, qui dans leur entourage ne sont pas sensibles à ces questions. Et donc on a une visibilité nouvelle, on a des lois nouvelles, on a le partenariat depuis 2015, on a les avis depuis 2019 des cours de district, on a aussi le fait qu'on a une reconnaissance partielle des mariages gays entre ressortissants japonais et ressortissants étrangers, dont le pays reconnaît les unions de couples de même sexe. Mais en attendant, il faut que ça passe par le Parlement, il faut qu'il y ait une reconnaissance politique. Et l'ancien Premier ministre, donc Abe Shinzo, en 2015, avait dit « Kiwamete kitsuoni, il fallait vraiment être extrêmement précautionneux pour s'emparer de cette question. Donc, si les politiques ne s'en emparent pas concrètement, c'est-à-dire à la diète, et ils l'ont déjà fait, mais ils ont refusé, il n'y a rien qui se passera. Pour le moment, on est vraiment dans une bataille juridique portée par les militants. Et on est dans cette espèce de tournant qui va peut-être prendre encore quelques années. C'est plutôt un bras de fer, hein, je dirais, parce que le PLD, donc le Parti Libéral Démocrate, il est au pouvoir depuis 2012. On peut dire qu'il est au pouvoir depuis 1955, excepté 2009-2012. Il n'est pas prêt à lâcher sur les questions sociales. Il n'est pas prêt à lâcher sur les questions de genre. Pour les conservateurs du PLD, une femme, ça doit être une femme au foyer. Un homme, ça doit être un homme qui travaille.
Une loi de 2003 reconnaît le changement d'état civil des personnes trans, mais uniquement à la condition qu'elles aient subi au préalable une opération chirurgicale. Est-ce que les choses, on a l'impression qu'elles vont continuer à bouger un petit peu à ce sujet-là? Quels sont les espoirs que la communauté trans peut légitimement avoir aujourd'hui ou non?
Alors, cette loi de 2003, elle a déjà été modifiée en 2008, notamment sur la clause de ne pas avoir d'enfants. Donc c'est quand même déjà une clause aussi importante, je pense, que la stérilisation forcée, puisque les personnes qui avaient des enfants et qui transitionnaient ne pouvaient pas bénéficier de la loi. Donc déjà, on excluait de fait pas mal de monde. Et effectivement, la stérilisation forcée, c'est quand même une réassignation sûre. Dans le sens où le législateur ne veut pas qu'il y ait des cas qui se posent, comme effectivement on a pu le voir dans le monde, des personnes trans qui ont gardé leur gamète. Donc ça avait déjà été changé en 2008, et c'est effectivement novembre 2023, la Cour suprême reconnaissait qu'il y avait une discrimination et une violence sur ce préjudice de stérilisation. Et alors, demi-teinte toujours, c'est pas parce que la Cour suprême dit que c'est inconstitutionnel que de facto la loi est abrogée. Et c'est ça le problème, en fait. On se dit, ah bah génial, ils ont jugé que c'était inconstitutionnel. Bah non, en fait, parce qu'il faut que la diète, donc le Parlement japonais, se saisisse de ça pour faire voter une loi. Alors là, la question se pose différemment pour les questions d'identité, de changement de sexe, parce que le gouvernement a plutôt une stratégie de réassignation sexuelle. Alors, peut-être que d'un côté, c'est bien, de l'autre, c'est pas bien, puisque ça renforce la binarité de genre et surtout les rôles sociaux. On peut le voir très clairement entre 2014 et 2018, le ministère de l'Éducation, pour l'éducation obligatoire, donc collège, école primaire et lycée, a mis en place des mesures pour accompagner les élèves mineurs dans leur changement de sexe. Donc vu de loin, on se dit waouh, mais incroyable, le Japon accompagne les changements de sexe pour les enfants mineurs. Alors attention, ils ne les accompagnent que si la fille ou le garçon veulent bien s'établir dans l'autre identité de genre. Donc il est hors de question d'avoir du flou, et on commence bien pour avoir une réassignation, et les conditions, c'est vraiment, tu te sens fille, tu veux passer à garçon, mais tu seras vraiment un garçon. Donc il y a une espèce de contrôle psychologique qui est fait par l'institution pour réassigner de façon très marquée, très binaire, les rôles.
Donc vous avez commencé à l'évoquer, toutes les décisions de justice de ces dernières années concernant le mariage, elles sont le fruit du travail commun d'une trentaine d'associations dans le cadre d'une campagne qui s'appelle « Liberté de se marier pour tous ». Cette campagne, elle est née en 2019, à un moment où, on l'a dit, tous les autres pays du G7 avaient déjà légalisé le mariage pour tous. Comment est-ce qu'on explique que le tissu militant au Japon, il ait mis autant de temps à se structurer autour de cette question ?
Déjà, il y a une scission très claire entre gays et lesbiens, qui est historique. Voilà, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes statuts sociaux déjà entre lesbiennes et gays. Il faut quand même savoir que c'est pas les mêmes positions dans la société, parce qu'on revient à des questions hommes-femmes.
Ouais, on évoquera la question.
Voilà. Et le lobby gay s'est structuré autour de la prophylaxie du VIH à partir de 85 au Japon. Donc il y a une grosse structuration autour de ça. Les femmes lesbiennes et les femmes qui aiment les femmes, du coup, se sont simplement structurées autour du fait de se rencontrer, d'échanger, d'écrire. Enfin, à une époque où il n'y avait pas Internet, des magazines, des revues. Et en fait, c'est vraiment dans les années 90, donc c'est l'arrivée d'Internet et d'un militantisme qui passe mieux que... Enfin, mieux. On va dire qui évolue à travers tout le Japon et non pas à travers des journaux, des revues, donc une diffusion limitée. Et en fait... cette question du mariage gay, elle est aussi portée, donc c'est ce que je disais, par les premières militantes qui ont eu des enfants. Donc il y a aussi une question de génération. ce sont ces militantes des années 80 qui ont eu leurs enfants dans les années 90 qui vont se regrouper autour de ça. Donc il y a une féministe lesbienne qui va créer le groupe des familles de Osaka, des lesbiennes, lesmasa, enfin des femmes, des mères lesbiennes, en disant bah, j'ai des enfants avec ma compagne, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, comment on fait pour être reconnue, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est des petites initiatives comme ça. Et effectivement, après, on va avoir l'agenda international qui fait que, ah tiens, en Europe, on a des partenariats, on a des PACS, pourquoi pas le Japon. Donc je veux dire, les idées, elles circulent. Donc il y a le groupe Zenkoku Partnership Shomeisho Network, donc le réseau national, enfin japonais, pour la reconnaissance du partenariat, lui qui s'est vraiment fondé autour de cette question et qui était très actif, effectivement, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Puis les militants ont basculé dans Equal Marriage Japan. Donc il y a aussi une question de structuration, de génération. Et très clairement, quand je me rappelle les années 2010, 11, 12, l'argumentaire de cette association, c'était « on va faire un partenariat, un PAX ». Parce que le modèle absolu, c'était l'Allemagne et la France avec leur PAX. Et puis l'Europe de l'Ouest qui a commencé à généraliser les PAX, comme en Suède. Enfin, voilà, chacun a un nom différent. Et pourquoi ? Parce qu'on n'imaginait même pas que le mariage, ça serait l'étape suivante. On se disait, on va déjà reconnaître une union, parce qu'a priori, en Europe, c'est déjà passé par là. Puis en fait, on se rend compte que peut-être qu'en Europe, il y a aussi des passages directs au mariage gay, ou que le passage du PACS au mariage gay se fait de façon houleuse. Là, je prends le cas de la France. Hein. C'est pas parce qu'on avait le PACS que le mariage gay, ça a été facile à faire passer pour une partie de la population. Donc, et puis effectivement, entre 2005 et 2015, il y a beaucoup de pays, et pas que en Europe, qui reconnaissent le mariage gay. Donc la question, elle est portée au fur et à mesure par les militants qui changent d'argument juridique, qui se rendent compte aussi que la situation évolue dans les autres pays qu'ils avaient peut-être pour modèle. Et puis eux-mêmes, en fait, se disent pourquoi pas faire pression sur le mariage gay. Et la création de Marriage Equal Japan, c'est intéressant parce que très clairement, au début de leur création. Donc 2014, on sait qu'il y aura les Jeux Olympiques. C'est annoncé en 2013, en automne 2013. Et là, vitrine internationale énorme. Donc là, dans ce lobbying sur 4 années, il y avait déjà un agenda politique. Et effectivement, le Japon a fait une ordonnance par rapport aux Jeux Olympiques pour une meilleure prise en compte des personnes LGBT. Donc ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a, il y a pas d'interdiction de loi. Mais on en parle, on fait une ordonnance, donc on en parle. Les journaux en parlent. Les gens comprennent que c'est une question qui se pose dans d'autres pays, au Japon. Donc ça prend du temps.
Dans les chrysanthèmes roses d'homosexualité masculine dans le Japon contemporain, Éric Laurent parle d'une forme de troisième voie qui serait une cohabitation entre les valeurs sociétales japonaises et des formes occidentales plus occidentales de militantisme. Donc déjà, vous venez de l'expliquer, les motivations initiales étaient différentes. Qu'est-ce que ça pourrait représenter cette forme de troisième voie militante?
Éric Laurent, effectivement, son ethnographie, elle est très intéressante parce qu'il montre justement le positionnement aussi des Japonais par rapport à leur propre culture. À savoir, on ne parle pas forcément ouvertement de sexualité. En tout cas, on le réserve vraiment dans l'intimité de ses amis et de ses très proches. Du coup, même politiser la sexualité, ce qu'on a commencé à faire en France, par exemple avec les groupes de défense de l'homosexualité, comme ils se nommaient à l'époque, c'est vraiment les années 70. Du coup, au Japon, politiser la sexualité, c'est pas quelque chose qui est facile, parce que c'est pas le sujet qu'on va politiser le plus. Et effectivement, les actions militantes japonaises, il n'y a pas, les panthères roses, comme à Paris, il n'y a pas. Dans l'espace public, il n'y a pas les formes de revendications, que certains vont qualifier d'agressives, que je qualifierais de rafraîchissantes. Il n'y a pas, par exemple, les jours des règles, on va colorer les fontaines en rouge. Non, parce que du coup, c'est perçu comme peut-être trop agressif. Donc déjà, il y a le militantisme, le rapport de l'exposition publique à la violence. Alors, ce n'est pas du tout violent pour moi, mais enfin, bref, je vois ce qu'on peut dire. Donc, la mise en scène d'une cause, jusqu'où on est prêt à aller. Bon, déjà, il y a cette restriction qu'on peut voir. Et puis, effectivement, longtemps, et c'est ce que dit Éric Laurent, et c'est ce qu'on voit toujours maintenant, les gays et lesbiennes, en fait, ils se mariaient avec quelqu'un d'hétéro et ils vivaient leur vie de couple, enfin leur vie sexuelle propre avec quelqu'un d'autre en dehors du mariage. Donc même maintenant, on le voit encore sur, si on interroge des gays ou des femmes lesbiennes, plutôt les gays du coup, mais ils disent c'est pas grave, nous on veut faire comme tout le monde, fonder une famille. Donc du coup, même si on peut être militant aussi, on se dit on va vivre notre vie avant d'en revendiquer, de faire quelque chose qui est politisé. Donc c'est ça la troisième voie. Mais en fait, c'est ce qui se passe au Japon, c'est-à-dire qu'une petite poignée de militants va s'est saisie de la voie juridique, alors qu'ils auraient pu faire d'autres choses, je sais pas, des actions dans le symbolique, des protestations, ils auraient pu s'enchaîner au Parlement, enfin, à tout ce qu'on a vaguement pu faire en France.
Et en tout cas, dans les pays.
Voilà, dans certains pays, ou alors, en fait, dans certains pays, c'était vraiment le législateur qui, naturellement, a posé les questions. Donc, il n'y a pas... Il y a cette volonté d'avancer doucement, enfin, comment dire, en gardant pour soi la sexualité comme quelque chose d'intime, donc comme quoi c'est difficile à porter. Donc effectivement, on est sur cette troisième voie, et ça explique peut-être le rythme et la voie qui est choisie, la judiciarisation.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
湖のある静かな町で起きた些細な事件。それはよくある子供同士の喧嘩に見えた。ごめんなさい。
On vient d'entendre un extrait de la bande-annonce de L'Innocence, le dernier film de Hirokazu Koreeda, qui avait obtenu la Palme d'Or en 2018 pour Une affaire de famille. Dans L'Innocence, un des personnages, c'est un enfant gay. Le film n'a pas été très bien compris au Japon, si je ne me trompe pas.
Oui, alors dans le journal national, enfin Asahi, il y a une grande tribune où justement Koreeda s'explique parce que ça n'a pas du tout été bien perçu et notamment, enfin, ce qui n'a pas été bien perçu, c'est pourquoi vous avez mis en scène ce personnage de cette façon. Est-ce que c'était politique? Est-ce que c'était volontaire? Qu'est-ce que ça apporte au film? Donc Koreeda effectivement va, enfin, dit qu'il n'a pas été compris, que pour lui c'était peut-être normal de le mettre ici, de le développer comme ça, et que ça ne poserait pas de problème. Ça reflétait aussi la réalité, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe dans sa contemporanéité. Il met en scène des familles telles qu'elles sont, un peu comme Mambiki Kazoku, donc un air de famille, c'est ça. Du coup, pour lui, c'était une thématique qu'on pouvait traiter dans le cinéma à travers la mise en scène d'un personnage. Et ça posait pas de problème, c'était pas revendicatif. C'est-à-dire que pour lui, c'est une peinture, une description. Après, le film peut être revendiqué ou non, voilà. Mais donc il y a eu cette page de tribune où effectivement il y a une incompréhension sur est-ce que c'est un film militant, pourquoi il a mis ce personnage, pourquoi il n'aurait mieux fait de pas le mettre, enfin voilà. Donc après on fait la lecture qu'on peut avoir du film, mais c'est vrai que ce qui est rare et ce qui est remarquable, c'est qu'il a été pris à partie, donc en disant mais pourquoi, voilà pourquoi. Donc ça prouve bien que finalement ça dérange, ou en tout cas ça questionne, ça interroge.
Vous l'avez évoqué un peu plus tôt en parlant d'un couple d'actrices qui ont un peu médiatisé leur partenariat, de cet animateur, enfin cet artiste qui est très présent sur les plateaux télé. Est-ce qu'on voit quand même de plus en plus apparaître des rôles modèles ces dernières années en pop culture, en politique, dans les médias, quelles sont les figures sur lesquelles les adolescents et adolescentes japonais aujourd'hui peuvent s'identifier?
Alors, en termes de politique, ils ne sont pas nombreux. Donc, il y a notamment... Alors, c'est vrai que Otsuji Kanako, donc, c'est mon idole. C'est l'idole de toutes les lesbiennes japonaises. Parce qu'en fait, c'est une des premières à avoir parlé, à s'être affichée. Elle a écrit aussi sur son coming out. Elle semble sympathique. Enfin, je ne sais pas. Et effectivement, tout le monde l'appelle... Enfin, tout le monde... Les femmes lesbiennes japonaises qui sont sensibles à son discours l'appellent... Tsuji-chan, enfin bon, bref. Et après, elle, dans. Alors, c'est quoi? C'est en 2000. Je ne me rappelle plus quand il a fait son coming out et surtout quand il a été élu, mais Ishikawa Taiga. Donc, ce qui est marrant, enfin, ce qui est drôle, je trouve, c'est que Fukushima Mizuho, donc l'ancienne présidente du Parti Socialiste, elle a dit que c'était mince, le Harvey Milk japonais, bon, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Mais ces références-là, c'est vraiment les gens qui sont intéressés, qui sont déjà politisés d'une certaine façon, qui vont s'intéresser. Je pense pas qu'ils soient médiatisés au point de, je sais pas quel serait l'équivalent français d'ailleurs. Mais voilà. Et après, dans les animés et les films, alors j'ai pas tous les titres en tête, mais très clairement, depuis les années 2010, on a dans les animés, les films d'animation, on a beaucoup de fluidité de genre, hein, qu'on peut voir un peu aussi dans d'autres pays d'Asie. Je pensais à la Thaïlande. Je pense pas qu'au Boys Love et au Yaoi, hein, je pense vraiment à de la mise en scène de personnages dans des histoires normal entre guillemets, pas du boys love yaoi quoi, des personnages gays, des personnages lesbiens, des personnages trans, des personnages asexués, bisexuels. Il y a vraiment ça qui s'est mis en place 2010 et ça continue dans les mangas. Alors la production de mangas, il faut vraiment se rappeler que nous on lit les mangas les plus primés, hein, donc on a un petit biais de consommation de mangas en France. Il y a des mangas qui parlent d'homosexualité, alors en dehors du genre boys love, on va dire. Il y en a. Après, des références grand public, dans le sens télévision, il y en a moins. C'est-à-dire qu'il y a souvent des gens, je pensais à Mats Kodelax, qui était vraiment omniprésent dans les années 2010-15. Il n'est pas forcément identifié comme tel. Donc il n'y a pas. Et ce discours politique, il est trop sérieux finalement pour arriver dans une émission type talk show de variété. Les émissions de variété qui rassemblent quand même énormément de spectateurs, téléspectateurs japonais. Donc là, ça passe un petit peu à la trappe dans le média télé. Donc. Je pense que dans les mangas et les animés, il y a maintenant pour les jeunes une possibilité de s'identifier à des personnages, très clairement. Et puis après, il y a des engouements auprès de certains personnages. Communauté politique, c'est moins évident.
Est-ce que justement, au-delà de cette sphère militante ou publique, dans une sphère plus quotidienne et plus anonyme, est-ce que c'est quand même maintenant plus simple de faire son coming out ou est-ce que ça reste quelque chose de très marginal ?
Alors, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple qu'il y a 10 ans. C'est beaucoup plus simple qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, les militants disaient « Est-ce qu'on fait un coming out ?» Maintenant, ils sont plutôt dans « Il faut faire un coming out. » Et les non-militants sont plutôt dans « Comment je vais faire mon coming out ?» Donc, ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait, sauf pour une petite minorité, de se dire « Je le cache complètement, définitivement, et je me marie avec le couple du même sexe. » Il y a vraiment là cet effet de génération qui fait que je pense qu'on n'aura plus les guizokekon, enfin les camouflages, les mariages camouflages avec une personne du sexe opposé. Et je pensais justement à cette question d'éducation. Il y a quand même un réseau qui a été créé par des enseignants qui militent en fait pour une meilleure prise en compte de ces questions au sein des programmes de l'éducation nationale. Et du coup, c'est intéressant de voir que même dans la sphère très concrète de l'éducation qui est obligatoire au Japon et qui est massivement publique pour le primaire, hein, 98% des Japonais suivent le même programme, que des enseignants en parlent. Donc du coup, c'est plus du tout un tabou comme ça pouvait l'être il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on en parle forcément à un moment ou à un autre, même si c'est de façon très hétéronormée. Mais en tout cas, on le dit. Et les profs qui sont militants vont dire « Écoutez, parmi nous, une personne sur cinq... Non, sur 20, n'est pas hétéro. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Nanana. Donc, les enfants, maintenant aussi, ont un discours auquel ils sont exposés, le discours de l'éducation nationale, les médias, et discours médiatique des parents quoi, sur l'actualité. Donc, ça change beaucoup. On est sûr à qui on doit le dire. Et puis après, c'est ce que je disais, tout le monde n'est pas à l'aise avec sa transition ou son coming out. Donc, même si on est très militant, on peut aussi le garder pour soi, pour ses proches ou pour son cadre militant. Hein. Je connais plein de militantes qui sont out dans la sphère militante, mais pas du tout avec leur famille, leurs amis. Donc, ça pose parfois certains hiatus, mais ça n'empêche pas que elles militent, quoi.
Comment est-ce que se déroule la sociabilité des personnes LGBT au Japon, à la fois maintenant, mais aussi depuis... disons sur le dernier siècle, pas d'un point de vue pur, totalement historique, disons sur l'époque contemporaine, en termes de soirées, de bars, de sauna, enfin, que sais-je.
Alors, il y a une très nette différence entre où est-ce que vous habitez. Donc si vous êtes un tokyoïte pure souche et quelqu'un qui est pas très loin de, je sais pas moi, à Omori, voilà, vous n'avez pas les mêmes lieux de socialisation, même si maintenant, sur tout le Japon, il y a des bars, il y a des cafés, alors, qui s'affichent comme LGBT friendly, LGBT friendly, par exemple, avec un petit drapeau. Il y a, donc voilà, c'est pas qu'il n'y a pas de militantisme, de lieux d'accueil en province, c'est simplement qu'ils sont plus discrets, différents. Et d'ailleurs, c'est super intéressant à ce sujet, deux collègues japonaises viennent de sortir vraiment là un livre qui s'appelle Les personnes LGBT et les départements du Tohoku, donc le nord-est du Japon, en disant mais en fait, il y a bien un militantisme, il y a un ancrage, il y a des lieux de sociabilisation, c'est juste qu'on ne les voit pas comme à Tokyo où ils sont peut-être plus visibles. Donc vous avez pour les adolescents les bars, les cafés. Maintenant, il y a Internet. Le gros déclic, hein, c'est vraiment les années 90 où bah, on pouvait parler à n'importe qui de n'importe quel endroit du Japon, alors qu'avant, il fallait écrire, publier via une revue. Donc certes, si on voit les revues lesbiennes des années 80, c'est génial. On a des femmes de tout le Japon qui communiquent, mais il faut qu'elles communiquent à travers cette revue. Donc ça pose... Enfin voilà, c'est... Et puis pour se rencontrer, c'est encore plus difficile. Donc il y a les bars, les cafés, les saunas effectivement dans les grandes villes pour plutôt les gays du coup. Il y a tout ce qui va être lieu militant, notamment pour les jeunes, à propos de la sexualité. Donc là, c'est aussi un lieu qui est important pour les jeunes bah, qui ont des questions sur leur santé sexuelle ou tout simplement bah, sur leur sexualité. Donc ça serait toutes ces associations, il y en a eu vraiment sur tout le territoire japonais à partir des années 90. Ensuite, pour les gens qui sont déjà, on va dire, dans leur sexualité active, il va y avoir les cercles militants. Et il va y avoir, alors, dans les médias, bah, il y a quand même des livres, des films, enfin des choses dans lesquelles on peut se représenter. Il y a maintenant, depuis les années 2010, les festivals de cinéma LGBT. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport aux années 2000. Maintenant, c'est assez généralisé. Donc, c'est un lieu de rencontre, d'échange. Puis, on voit des films sur la réalité du Japon ou d'autres pays. Hein. Donc, ça, c'est nouveau. Et puis, ce qui est connu au Japon, si un jour vous y allez, je parle à tout le monde, donc allez à Nichome, qui est à Tokyo. C'est là, sur un tout petit arrondissement, un ensemble de bars, d'endroits, de discothèques. Enfin, c'est génial, quoi. L'ambiance est absolument géniale. La nuit, ça devient gay. Le jour, c'est complètement... Enfin, on ne voit pas du tout. Et effectivement, il y a aussi des librairies. Hein. J'ai oublié de parler des librairies. Mais il y a des librairies LGBT qui se sont installées dans le Japon. Alors, bien sûr, il y en a plus à Osaka et Tokyo. Mais il y en a ailleurs. Et donc, ça, ce sont des lieux d'info, d'accès.
Quand on pense au Japon et au rapport à la sexualité, enfin en tant que public français, tout de suite en tête, on a les images de l'Empire des Sens, Mishima, la pornographie avec les fantasmes de lycéennes et de tentacules. Donc ça semble assez contradictoire avec une société qui est aussi caractérisée comme étant très pudique, très réservée. En tout cas, de notre point de vue européen, c'est peut-être la civilisation qu'on imagine la plus ambivalente à ce sujet. Est-ce que vous, déjà, vous confirmez l'existence de ce paradoxe-là dans la société japonaise ? Et comment est-ce qu'il s'explique culturellement ?
Oui, on peut voir un paradoxe. Donc, c'est marrant que vous citiez effectivement donc, les tentacules, parce que ça, typiquement, c'est des représentations complètement fantasmées, quoi, qu'on voit dans la peinture à destination masturbatoire. Donc, c'est un média parmi d'autres, du coup, que nous, on a retenu. Parce que au XVIIIe siècle en France, il n'y a pas quoi. Donc c'est clair qu'on n'a pas la même histoire, à savoir il n'y a pas cette chape catholique puritaine ou catholique ou chrétienne. Enfin voilà, ce que vous voulez qui revient à plutôt chrétienne entre je sais pas le 15, même s'il y a l'arrivée des jésuites hein, entre le 15 et 19e siècle, on n'a pas ce que l'Europe occidentale a comme cadre. Et c'est seulement donc, quand le Japon devient le Japon, c'est-à-dire quand il devient le Japon moderne, en 1868, que le Japon, pour éviter d'être colonisé, investit les cadres des colonisateurs, enfin, donc de la France et de l'Allemagne notamment, en reproduisant notamment le code civil, le code militaire, la conscription, la définition de l'État-nation. Donc il y a tout un processus d'imitation mimétique pour résister finalement au processus de colonisation. Et donc effectivement, le Japon n'a pas été colonisé, contrairement à son voisin, je ne sais pas, la Chine ou la Corée d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une pléthore de lois, la loi sur l'obscénité, le crime de sodomie, le mariage obligatoire entre une femme et un homme et qu'il faut avoir les enfants dans le mariage. Tout ça, ça n'existait pas en fait avant 1868. Hop, c'est extrêmement brutal comme changement, même si la loi, ses effets, ils s'appliquent en 30, 50 ans. Hein. Et du coup, c'est peut-être aussi ce référent-là, hein, cette modernité accélérée. Là, il y a plein de travaux hein, de collègues sur ça. Qui fait qu'on a l'impression que c'est contradictoire. Parce qu'effectivement, la production d'illustrations érotiques, ou pas érotiques d'ailleurs, japonaise est impressionnante. Hein. Elle est impressionnante, mais parce qu'il n'y avait pas ce carcan à ce moment-là. Donc forcément. Et après, effectivement, le mariage avec les rôles de genre très figés, c'est vraiment les années 70. Donc ça se trouve... Si le Japon avait emprunté une autre voie que la haute croissance encadrée, peut-être qu'on n'aurait pas eu cette définition de maman au foyer, papa qui travaille. Enfin, je veux dire, on ne sait pas, hein, je ne vais pas refaire l'histoire, mais on a aussi cette trajectoire politique de l'après-guerre qui explique comment les rôles familiaux sont figés. Et sont figés autour de un papa, une maman, des enfants, un travail, une mère au foyer, et des enfants qui vont à l'école. Et si on prend un point de vue un petit peu plus oriental sur notre propre pays, la critique qui nous est adressée par, je sais pas, l'Europe de l'Est ou autre, plus à l'Est, on va nous dire, mais vous, dans les pubs, on parle tout le temps, on voit des femmes dénudées, il y a tout le temps des films où on voit des gens qui s'embrassent, qui font l'amour. Ça n'empêche pas qu'au lit, vous n'êtes pas spécialement... c'est pas parce qu'on voit partout que l'on fait. Donc ça, et c'est vrai, c'est pas parce qu'on voit partout au Japon qu'ils font. Et en France, on n'a jamais autant fait peu l'amour que maintenant. Donc pourtant, on montre beaucoup. Et peut-être effectivement, cette ambivalence, elle se retrouve aussi. Enfin, moi, j'ai envie de dire qu'elle se retrouve en France, puisqu'on fait moins l'amour de manière générale. Mais c'est clair qu'on est exposé à une publicité forte sur tout type de messages, dont sexuels. Et puis il y a cette sexualisation des femmes qui est insupportable dans l'espace public. C'est pas pour autant qu'elles font l'amour et qu'elles font bien l'amour, quoi. Donc très clairement, il faut se méfier de la production artistique, médiatique, publicitaire. Faut pas la projeter sur notre sexualité quotidienne.
Du coup, dans ces représentations, il y a aussi des représentations de l'homosexualité. Et donc avant, donc il y a cette question un peu de puritanisme qui sera arrivée avec l'ère Meiji, c'est ça?
Oui.
Et avant l'ère Meiji, est-ce qu'il y avait une meilleure acceptation aussi de l'homosexualité, en plus d'un carcan moins contraint dans le sexe hétérosexuel?
Oui, alors oui, le carcan était moins contraint parce qu'il n'était pas christianisé, on va dire. Et il y a toute cette, c'est ce qu'on appelle ninshoku, hein, la voie érotique. Il y a toute une espèce de tradition en très faible. On voit un petit peu, on peut reprojeter hein, ce qui se passait avec la pédérastie en Grèce antique au sens large. C'est-à-dire que chez les moines, on adoptait un protégé. Avec lesquels on avait des relations complètement sexuelles ou plus ou moins sexuelles. Il y avait tout cet imaginaire qu'on va retrouver dans les productions estampes et autres. Et puis côté lesbienne, effectivement, vous avez plein de reproductions de femmes, de lesbianisme sexuel, on va dire. C'était pas interdit, en fait. C'est vraiment avec Meiji que ça devient interdit et que les gens se disent « Ah oui !» Ah d'accord, on n'a pas le droit, ok. Ah oui, c'est quand même puni d'une amende et de prison, donc c'est peut-être pas terrible. Donc c'est quand je veux dire que c'était beaucoup plus libre, oui, c'est beaucoup plus libre pour les hétéros. Enfin, ça n'existait pas cette catégorie, mais du coup pour les personnes hétérosexuelles. Et aussi, effectivement, on a toute une tradition de l'homoérotisme masculin chez les guerriers, chez les classes guerrières et dans les classes religieuses. Donc on est clairement à l'opposé de ce qui se joue en France à la même époque, quoi, c'est sûr. Donc effectivement, oui. Et il y a un terme.
Ce qui joue officiellement.
Oui, ce qui joue officiellement. Non, mais vous avez complètement raison.
Ce
voilà.
Oui. Dans la caserne et les.
Oui, non, mais justement, en fait, c'est le double discours. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contraindre une personne sur cinq à s'inhiber. Mais du coup, effectivement, le discours officiel du Japon, qui n'est pas le Japon, hein, qu'on connaît, vu qu'on est vraiment sur le territoire central, les territoires périphériques ne sont pas japonais, on ne parle pas japonais. Hein. Enfin, donc, c'est comme. Le royaume français, quoi. Il n'y a rien d'unifié. Il y a ce ninshoku, hein, donc cette tradition homoérotique. Et donc, du coup, il n'y a pas de contrainte pénale, il y a pas de, voilà, il y a des représentations, c'est accepté, en fait.
Et en termes de normes de genre, donc il y avait potentiellement disons pas une égalité, mais moins d'un système moins figé dans les représentations et les normes entre hommes et femmes. Mais est-ce qu'il y avait aussi moins de binarité et plus de fluidité dans les identifications de genre possibles, où on n'a pas encore trop de traces de ça ?
Puisqu'il n'y a pas cette organisation autour du mariage procréatif qui est figée, c'est-à-dire qu'il y a trois régions du Japon qui ont chacune une façon de voir le mariage, le pouvoir économique et symbolique et politique des femmes est clairement plus important qu'il ne l'est devenu avec la modernisation du Japon, même si effectivement, par ailleurs, les femmes avaient moins accès à la lecture, l'écriture. Donc voilà, j'essaie de généraliser tout en disant que, attention, comme on n'avait pas « tu dois te marier pour avoir un nom, pour faire des enfants », et que ce n'était pas du tout ça, en fait, les femmes étaient, dans certaines régions, économiquement indépendantes, donc de fait, elles ne sont pas dans les mêmes rapports sociaux. Donc la question des normes de genre, clairement, elle est extrêmement différente avant la modernité. Et cette question des catégories, j'invite tout auditeur qui m'écoute à faire une thèse dessus, voilà, par période, hein, parce qu'on a de quoi faire. Mais effectivement, c'est vraiment le début de l'histoire queer. Hein. Comment les gens se définissaient au XVIIe siècle ? Est-ce qu'ils utilisaient quelles catégories, à part celles qu'on a dans les représentations artistiques et dans les livres ? Concrètement, c'est difficile l'histoire de la sexualité parce qu'il faut des traces matérielles de journaux intimes. Donc qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit pas, qu'est-ce qui est publié médiatiquement, c'est pas forcément la même chose que dans la chambre à coucher. Donc oui, nous attendons tous ces travaux.
Appel à travaux académiques, nous transmettons cet appel. Merci beaucoup Aline Héninger d'avoir été notre invitée cette semaine. Je rappelle que vous êtes donc maîtresse de conférences en langue et civilisation japonaise à l'université d'Orléans. Rendez-vous sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby pour retrouver les noms de quelques-unes de vos publications ainsi qu'une transcription de cet épisode. Cette émission se réécoute comme toutes les autres sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre des étoiles. C'est une façon simple et efficace de nous soutenir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt.